L'un des plus insistants parmi les rêves de mon enfance. Je l'ai noté à diverses reprises, sitôt que la vision d'un avenir sans cesse raccourci eut commencé de m'inciter à fourgonner dans le passé qui s'accumule derrière moi. Avait pour base ce thème très simple. Recherche d'un objet connu, égaré pour un temps, et que je souhaite ardemment retrouver. Rêve de pur désir, qu'il m'arrive encore de faire quelquefois, sous des formes variées, et dans lequel l'objet sur quoi il s'agit de remettre la main est assez généralement un disque de gramophone. Disque absolument merveilleux, de jazz le plus souvent, que je me rappelle avoir entendu sans que je puisse toutefois parvenir à le redécouvrir dans un monceau d'autres disques aussi récemment écoutés. Disque réel, mais introuvable, bien que de sa proximité, tant que je suis aux prises avec le rêve, je ne puisse avoir aucun doute. Pièce unique, perdue au milieu d'une collection comprenant maintes échantillons non dénués de qualité, quoique fort loin de pouvoir être comparé avec celui dont le manque est un empêchement rigoureux à ce que, sinon durant un laps plus long, du moins pendant quelques minutes, je me sente comblé.
Attendez, mon premier livre publié est de 25. C'est Simulacre qui avait été illustré par André Masson. Mais j'avais déjà publié en revue. Et j'avais terminé mes études au lycée, enfin, j'avais mon double bac philo. Il avait été question pendant un moment que je fasse de la chimie. J'avais même commencé des études dans ce sens. Je crois qu'au fond, ce qui m'intéressait dans la chimie, c'était plutôt l'alchimie de la chimie elle-même. D'autre part, c'était l'influence d'un camarade que j'avais à ce moment-là, qui avait fait ses études et qui m'avait décidé à les faire aussi. J'ai lâché assez rapidement. Max Jacob, qui est le premier grand écrivain que j'ai connu, le pauvre Max Jacob, qui était un homme d'excellent conseil, malgré sa vie un peu, surtout à cette époque-là, un peu marginale, et il donnait tout de même des conseils de gros bon sens qui étaient excellents. Max Jacob m'avait beaucoup poussé à ne pas renoncer à mes études de chimie, pensant que, mon Dieu, si on est poète, on le sera toujours, quoi qu'on fasse, et qu'un jeune homme qui débute, qui peut-être finalement, même s'il se croit quelques dons, s'avérera n'avoir pas grand-chose dans le ventre, eh bien, il vaut infiniment mieux qu'il continue tranquillement ses études. Je lui soumettais des poèmes que presque toujours il trouvait très mauvais. Je suis certain qu'il avait raison d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que ça me rendait extrêmement malheureux. Mais je lui sais gré, à distance, je peux même dire sur le champ, eh bien que souvent, enfin, je me rappelle qu'il est arrivé jusqu'à me faire pleurer de désespoir en critiquant très sévèrement un poème que j'avais fait et en me disant que je n'avais aucun don. Mais je lui sais gré maintenant de cette sévérité, parce que ça m'a montré ce que on est parfois trop enclin à croire quand on est très jeune, que la poésie, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Ce n'est pas une question de pure effusion, encore faut-il savoir écrire. Il déconseillait aussi, et ça je pense qu'il avait totalement raison, c'est un conseil comme les autres conseils qu'il m'a donné d'ailleurs, que j'ai toujours suivi ou essayé de suivre à peu près. Et ce qu'il conseillait aussi, c'était de fuir à tout prix le vocabulaire psychologique, par exemple, le vocabulaire savant. Justement, cette idée d'employer les termes les plus simples. Et je crois que c'était un très bon conseil qui dépassait le conseil purement stylistique. Et ça, je m'en suis aperçu par la pratique. Et je crois que si on évite l'expression psychologique toute faite, on est amené à creuser beaucoup plus sa pensée pour l'exprimer en langage simple, en évitant ce mot qu'on pourrait coller comme une étiquette sur l'état dans lequel on est. Il ne s'agit pas seulement de stylistique, mais c'est un conseil qui est très utile pour arriver à mieux, pas seulement mieux cerner, mais mieux creuser sa pensée. Mais alors, ce que j'ai admiré chez lui, et aimé énormément chez lui, c'est l'authenticité de sa poésie et la façon dont il vivait vraiment la poésie. Et je puis dire qu'à certains égards, si vous me demandez un jugement de critique littéraire au sens strict, il est possible, peut-être même probable, que Apollinaire ait été un plus grand poète que Max Jacob. C'est ce que Max Jacob, avec vraiment la plus merveilleuse honnêteté, reconnaissait tout le premier. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire chez Max, c'est tout le côté souffrance du poète. Tous les poètes ont leur souffrance, certes, mais souffrance du poète pour la poésie. Et c'est ça qui passait, enfin, dans ses écrits, et qui me touchait d'une façon extraordinaire. Et alors, c'est ensuite, j'ai connu, d'ailleurs, pas directement, mais c'est parti de Max, j'ai connu Roland Twall, qui a maintenant disparu, et qui était très ami d'André Masson, et qui m'a mené dans l'atelier d'André Masson. Alors c'est là que pour moi tout a vraiment commencé. André Masson a joué un rôle dans ma vie d'une importance extrême. Max Jacob m'avait montré énormément de choses, c'est entendu, mais il y a une chose qu'il ne m'avait pas montré et que Masson m'a montré, et c'est que c'est très bien d'être un peintre ou un poète, mais ceci implique une... Je sais bien que c'était aussi l'opinion de Max, mais Max était chrétien, et tout de même très autre chose. Masson, lui, était nietzschéen. Il m'a montré qu'il y avait un certain style de vie qui devait accompagner nécessairement, même pas accompagner, être fondu avec le style d'art, si je puis dire, que nous aimions, notamment avant même que, à sa suite, je devienne surréaliste. C'est lui qui m'a montré que, par exemple, on ne pouvait absolument pas rester indifférent devant les événements politiques. Que c'est très beau, on se dit, on se croit un révolté. Bien, si on est vraiment un révolté, il y a dans tout ce qui se passe dans le monde extérieur des choses qui révoltent, et notamment dans le domaine politique. Il faut, on est obligé, absolument obligé de réagir à cela et de prendre position d'une façon ou d'une autre.
Moraliste qui se juge sans tache quand il a dîné sans salir sa cravate. Un égaré, accroché à la poésie comme un clochard à son kilo de rouge.
Michel Léris adhère, comme il disait, au surréalisme dès 1924, sans doute début 1925. Et en vérité, comme on le verra dans son journal quand celui-ci sera publié, ce qu'il est curieux de noter, c'est qu'il est déjà presque méfiant avant d'être surréaliste. Enfin bon, il le dit très très nettement, notamment lorsqu'il rencontre Desnos en 1924, à l'été 1924, et que Desnos propose de fonder une revue qui s'appellerait La Révolution Surréaliste, et Léris dit « Ah mon Dieu, voilà encore une chapelle qui est en train de se construire ». Et il dit, évidemment, par rapport à Dada, quand on construit, eh bien, on ne peut pas détruire. Alors, bon. Bref, il y a beaucoup de notations. Donc, en 1929, il cherche sa voie. Il pense à un moment, après son voyage en Grèce, il pense à devenir photographe, reporter. Donc, il étudie un peu la photographie, et notamment grâce à Document, qui était une revue illustrée, et où l'illustration joue un rôle très important. et Léris avait, comme secrétaire de rédaction, en remplacement de Marcel Griaul, qui se trouvait à l'époque en mission en Abyssinie, Léris avait fait un petit peu le tour des agences, et faisait le tour des agences pour trouver le document parlant qui pouvait illustrer certains de ses articles à lui, ou les articles de Bataille, et d'autres collaborateurs de la revue.
Il a été vraiment totalement surréaliste, des années 25 à 28, 29, il a joué le jeu même de militant. Je peux vous dire une chose, c'est que par exemple, dans la publication des archives surréalistes dont je m'occupe et dont les principaux éléments sont au domicile d'André Breton rue Fontaine, encore, où habite sa veuve, encore maintenant, les comptes rendus, il y avait une vie collective très très active, ils se réunissaient tous les soirs, ils se réunissaient au café. Le midi et le soir, les séances de café, les rituels du café, et après dîner, au moins 3-4 fois par semaine, rue Fontaine, chez Breton, où ils avaient des réunions, où ils discutaient de choses et tout, et il y avait un secrétaire qui prenait en note tout ce qui se passait, et à peu près 50%, la moitié, dans cette période 25-29, la moitié des comptes rendus, qui sont encore chez Breton, sont de la main de Michel Léris. C'est lui qui était le secrétaire de séance. Avec l'autre moitié, c'est de la main de Simone Breton. Et d'ailleurs, c'est un bonheur pour les chercheurs, la moitié qui est de Michel Léris, parce qu'en dépit de cette écriture qu'on connaît très bien et qui n'a pas changé, très très bizarre, très heurté, comment c'est difficile de décrire une écriture. C'est là où j'ai des lettres, je vous les aurais montrées. Mais si vous voulez, Léo sont presque carrés et tremblés, mais apparemment, on se dirait, c'est une écriture qui n'a pas dit, mais c'est d'une lisibilité extraordinaire. Et l'écriture n'a pas changé. Hein. Entre 1926, les premiers manuscrits que j'ai eus de lui, et les lettres que j'ai de lui jusqu'à la fin, c'est la même écriture. Contrairement à moi qui suis dans le dépouillement de ça, contrairement à quelqu'un, par exemple, comme Zara, où j'ai relevé 14 types d'écritures différents, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Enfin, ça, les graphologues doivent avoir une explication là-dessus, ou une hypothèse. Et bon, pour en revenir à ce que je disais, sur sa période surréaliste, elle a été courte, mais elle a été intense. Il s'est vraiment impliqué dans l'activité surréaliste collective. Avec, je dis, cette réserve, cette hypothèse que ça n'a jamais fonctionné entre Breton et lui, très probablement.
Non, c'est un handicap important.
Ben oui. Alors lui, étant le scripteur, dans mon souvenir, il prend très peu la parole.
Sur quel genre d'intervention, vous avez des souvenirs?
Ah ben, toutes ces séances-là sont principalement des séances de problèmes politiques, hein. C'est l'époque où il s'agit de savoir si on va adhérer au Parti communiste ou pas, qu'est-ce qui va se passer, enfin. À 80%, ce sont des problèmes politiques.
Joan Miró ou Feu Follet? Bûcheron ou Sylvain, Racine fourchue ou Mandragore, Forêt d'automne ou Arlequin, Sang ou Rubis, Dame, c'est selon. Homoncule, Actinie, Chimère, Bavure de l'animé sur l'inanimé, Polder. Tout ce que la transparence d'une larme révèle à l'œil cyclopéen d'un microscope imaginaire. Au paradis, chaque jour perdu et retrouvé, poils et orteils foisonnent. Ni partie haute, ni partie basse, chez le marquis de Carabas. On y marche avec l'oreille, on y pense avec la fesse, on y aime avec les cils.
L'aventure biographique est la matière avouée de l'œuvre de Michel Léris. De poésie en récit autobiographique, l'introspection, la lecture intérieure et le regard constant qui pointe et déchire la surface des mots. Ce récit, monologue intérieur, rumeur interminable de tous les moments d'une vie, ce récit entraîne avec soi situations et personnages, les souvenirs et les amis, pour les fondre et les transfigurer dans l'élément mythique de la mémoire. Métamorphose dont l'histoire elle-même oriente le mouvement et orchestre les différents moments. Au 45 rue Blomet, dans l'atelier d'André Masson, que jouxtait celui de Joan Miró, c'est aussi l'une des plus belles pages de l'histoire du surréalisme que Michel Léris écrit dans l'amitié heureuse et à l'insu de lui-même. Histoire personnelle qui vient ici s'inscrire dans l'aventure collective et la pierre d'un mythe moderne constellé d'avenir.